on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les Immanquables.
Les Immanquables avec Thibaut. On commence, Thibaut, avec l'élection du jour.
Ouais, c'est celle d'Olivier Faure, réélu par près de 24 000 militants, premier secrétaire du Parti Socialiste, selon les chiffres officiels dévoilés ce matin par le parti. Le candidat sortant bénéficie de 50,83% des suffrages. Le score s'appuie sur des résultats issus des fédérations transmis à la commission d'organisation du Congrès. Résultat contesté par Nicolas Mayer-Rossignol, candidat récoltant 49,17% des voix. Ce dernier, premier à revendiquer sa victoire la nuit dernière, dénonce des irrégularités. Aucun résultat final ne peut être proclamé sans validation par la commission de recollement, lance le maire de Rouen sur les réseaux sociaux qui réclame une réunion ainsi que l'annulation d'un certain nombre de résultats en raison du contentieux. Le vainqueur sera intronisé la semaine prochaine à Marseille.
Perico Légas, tragique.
Tragique. Ça fait mal au Parti Socialiste. J'ai milité à ce parti, donc j'ai des attaches affectives ancienne. C'est quand même un parti qui a écrit une partie de l'histoire de France avec des personnages historiques, héroïques. Bon, je ne vais pas les citer ici, de Jean Jaurès à Léon Blum. De finir représenté par Olivier Faure. Je n'attaque pas la personne, mais
politiquement. Non, c'est ce que j'allais te dire.
Politiquement, c'est un ectoplasme.
Quand je dis ensuite, tragique, c'est la situation. C'est
voilà. Et ensuite, division avec le maire de Rouen. Bon, ça veut dire qu'il y a encore des grandes villes qui sont. Et que là où ils en sont réduits, le nombre de militants, l'audience.
24 000 votants.
Non, mais 2,10% à l'élection présidentielle, ils ont présenté Madame Hidalgo. Mais c'est un suicide. Et là, ils s'offrent le luxe de se déchirer. Vous vous souvenez de la déchirure, Martine Aubry, Ségolène Royal, ça avait fait mal, mais le parti était un parti du gouvernement. Bon, ça s'était arrangé. Voilà, ce parti, je pense que la vérité, il faut le dissoudre totalement et il faut qu'il renaisse de sa base. On a besoin d'un parti socialiste.
Il est en train de s'auto-dissoudre.
On a besoin d'un parti socialiste en France, mais pas comme ça. Pas comme s'il le fasse. Mais on a besoin d'un parti socialiste fort en France qui incarne à un moment donné l'histoire du peuple français.
Les vieux partis ne s'en sortent pas. Je veux dire, on a vu les Républicains sont coupés en deux, de la même manière. Et j'allais dire, le parti de Gaulle, c'est quand même pas brillant. Et de l'autre côté, effectivement, on peut faire le parti de Jaurès ou de Mitterrand, si on veut être plus récent, qui est là, de toute façon, quel que soit à la fin des fins, ce que dira la COCOE du coin, puisque nous avons la commission des récollements, ça nous rappellera les COCOE et autres joyeusetés de l'UMP à la grande époque. De toute façon, ce parti, il est coupé en deux. Quel que soit celui des deux qui a fait 400 voix de plus que l'autre, il est coupé en deux. Il va falloir réinventer effectivement les partis politiques parce que nous avons besoin de partis politiques comme on a besoin de grands syndicats, on a besoin de corps intermédiaires, sans doute plus ceux qu'on a connus. Et aujourd'hui, la nouvelle forme, elle est toujours pas arrivée parce que je reste toujours très sceptique sur l'informel pur qui, à un moment, ne construit pas et ne peut pas s'appuyer dessus. Les gilets jaunes sont, hélas, une démonstration des limites de ce mode de fonctionnement. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il va falloir qu'ils se réinventent. Et après, il y a aussi un positionnement à gauche puisqu'on voit bien que un des gros sujets de division, c'est l'appréciation de l'accord NUPES et la manière dont ils décident de le suivre ou de pas le suivre les uns ou les autres. On voit quand même bien que le point de rupture, en tout cas, purement politique, il est là. Il y a sans doute d'autres points de rupture derrière, mais le point de rupture politique, il est là. On regrette la belle époque où dans les congrès PS, avant même d'avoir les résultats, on se mettait d'accord sur les scores.
Mathilde, Imer.
Je trouve ça triste, moi aussi, qu'on en arrive là pour le Parti Socialiste, comme pour les autres grands partis. Je pense que ça révèle... C'est pas sans lien avec les premières discussions qu'on avait de cette...
Une
société qui est bloquée, mais surtout de la rancœur qui entre dans le cœur des gens avec cette chose de... Si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie? Mais je crois qu'il y a quelque chose de lancinant, de très fort, d'une colère là, qui rejaillit sur les partis politiques.
La question n'est plus là. Qu'est-ce que le socialisme aujourd'hui en France? Existe-t-il un socialisme? Non, mais il y aurait la réponse.
C'est vrai pour les Républicains, c'est vrai pour un grand
nombre de gens. Je ne mets pas le Parti Socialiste dans un parti traditionnel. C'est plus que ça. C'est un moment de l'histoire, c'est une sociologie.
Le gaullisme aussi.
Tout à fait, sauf que Fabien Roussel, il tient la route, il y a quelque chose. Ouais. Olivier Faure, c'est une calamité, quoi. Le successeur de Jaurès, de Léon Blum, c'est pas possible, il y a Maldonne.
Le budget du jour.
400 milliards, budget qui sera alloué à l'armée française entre 2024 et 2030, annonce d'Emmanuel Macron à la mi-journée lors de ses vœux aux armées. Le chef de l'État évoque un plan de transformation visant à adapter l'armée face au risque de conflits intenses renforcés par la guerre en Ukraine. Pour information, le budget 2019-2025 était fixé à 295 millions d'euros.
Milliards d'euros.
407 milliards. Triomphe total des thèses du général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées françaises, qui a été évacué parce qu'il avait signalé qu'on est dans une situation. Aujourd'hui, les statistiques disent que si la France était confrontée à une offensive telle que subit l'Ukraine, en capacité tactique, elle tiendrait 3 semaines. Voilà, avec les moyens dont dispose aujourd'hui. Donc 407 milliards, c'est plus en retard, c'est une tragédie. Il s'agit de la défense nationale. Je ne comprends pas comment un chef d'État alerté par un état-major, il n'y a pas que le général de Villiers qui avait signalé, puisse attendre 2023, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir, puisse attendre 2023 pour prendre les mesures. Aujourd'hui, on sait que la guerre existe, on a besoin d'une armée puissante pour exister, même par rapport à l'Europe. On a bien vu au Mali, on a eu besoin des États-Unis pour se faire assister logistiquement. Voilà, je ne suis pas un militariste convaincu, mais une puissance nationale, c'est aussi par la capacité à son armée à pouvoir intervenir avec la souveraineté du peuple français. Voilà. Et là, on en est très, très loin.
Pierre-Edouard Magnan.
Oui, après, si on a été attaqué, il y a une petite différence entre la France et l'Ukraine, c'est que certes, on a peut-être que 3 semaines encore, je me méfie de ces chiffres et de ces calculs.
Il y a
accessoirement l'OTAN, puis on a accessoirement une puissance nucléaire, ce qui déjà limite un peu le risque. Parce que quand on dit ça, on a un peu l'impression que demain, Poutine va venir nous attaquer.
Non, mais c'est le retour des chars russes sur les Champs-Élysées, ils sont plus communistes.
Ce
qui est sûr, c'est que c'est ma génération, mais pour ceux qui l'ont connu, moi, j'ai connu la fin de la guerre froide. J'ai fait mon service militaire, il y avait encore la conscription obligatoire. On avait une armée de masse. Prévu pour un conflit entre l'Est et l'Ouest.
J'ai fait mon service
Dit au revoir au service militaire. On est passé à l'armée professionnelle, parce qu'on a vécu avec des projections. Ça a été le cas en Irak.
Tout à fait.
L'armée de métier. Ça a été le cas partout, dans pas mal de pays en Afrique, en ex-Yougoslavie, au Kosovo, etc. Aujourd'hui, on est revenu à la guerre froide. D'un point de vue militaire.
Alors, après, il y a un vrai sujet sur le lien, effectivement, armée-nation. Ouais. Il y a un vrai sujet là-dessus, parce qu'à l'époque du service militaire, alors il était bon ou il n'était pas bon, mais il existait parce qu'il y avait un service, et que finalement, tous les hommes, parce qu'il n'a jamais été, il n'a pas eu le temps d'être mixte, je ne suis pas sûr que les femmes le regrettent, mais enfin, il n'a pas eu le temps d'être mixte, tous les hommes passaient d'une manière ou d'une autre par le service militaire, ce qui, de fait, crée un lien très fort entre l'armée et la nation. On peut discuter de la qualité de ce lien, mais il existait. Il faut aussi réinventer un lien. Tu citais Jaurès, on pourrait se replonger dans l'armée nouvelle, qui est un texte magnifique de Jean Jaurès avant la première guerre, sur comment on refait du lien entre, et pourtant, et c'est un socialiste, et un socialiste pas au sens où on l'emploierait aujourd'hui. Donc, il y a des réflexions à mener là-dessus. Évidemment, il faut qu'on ait moyen de se défendre. Évidemment, le monde a toujours été en guerre, et il l'est encore. Là, c'est vrai que la guerre se rapproche géographiquement. Alors, elle fait de plus en plus peur, mais au demeurant, la guerre, effectivement, elle est toujours là. Après, il y a aussi un truc, il y a aussi une acceptation, parce qu'on peut pas dire de l'autre côté, il va manquer 12 milliards sur les retraites en 2030 et c'est une catastrophe. Et dire, mais il n'y a pas de problème, l'armée, 400 milliards. Il y a un moment.
407.
Hein, 407. Non, mais j'ai un moment, en plus, pareil, on manie des sommes qui n'ont plus aucun sens. Enfin, dire, c'est inabsolu.
Ça n'a de sens pour personne,
400 milliards.
407 milliards.
407 milliards. Donc, c'est aussi ça le sujet qui est derrière. C'est, il y a aussi le lien armée-nation, l'acceptabilité sociale et le rôle de notre armée qui, Dieu merci, n'a plus de rôle politique. Et c'est une très bonne chose.
Mathilde Dimer.
Un moment.
400 milliards, je sais que tu préférais que ça aille à l'écologie. Mais
il y a une réalité. Rien pour le reste. Évidemment stratégique. Qu'il faut qu'on ait une armée. Moi, je pense que l'armée se réfléchit aussi au niveau européen. Qu'on a un enjeu à penser plus de manière collective sur ce sujet-là. Après, moi, je suis assez d'accord que quand on voit cette augmentation-là et qu'on se dit derrière, on va nous prendre 2 ans de plus pour 17 milliards de. Il y a un truc qu'on comprend plus là. Quand on est français, on se dit mais attendez, vous me parlez de sommes monstrueuses. Quand on parle de l'armée, quand on parle d'actionnaires, quand on parle de dividendes, quand on parle et sur d'autres sujets, pour des petites choses, où on a l'impression que c'est une goutte d'eau par rapport au système de sécurité sociale. Et ben, vous nous demandez de toujours encore plus nous serrer la ceinture, de réduire nos factures énergétiques. Il y a un truc qui est pas clair là.
La réponse du jour, Thibault.
Forcément, celle de Sandrine Rousseau, posant fièrement hier en pleine manifestation devant une pancarte sur laquelle on pouvait lire, je cite, « Sardou, ta gueule ». Rousseau répond au chanteur qu'il avait sur BFM TV appelé à une marche pour sauver le compagnon de la députée écologiste de Paris. Une marche pour aider ce pauvre mec, disait le chanteur, s'interrogeant sur le terme « homme déconstruit » prôné par l'élu.
Ça vous fait réagir ?
C'est une saga.
Rico.
c'est une saga. Je les adore tous les deux dans leur style. Ils apportent une distraction. Oui, on comprend Sardou avec ses mots un peu triviaux et un peu brutaux. Et c'est vrai que la personnalité de Sandrine Rousseau est un petit peu compliquée. Alors je me suis renseigné. Elle était mariée à un économiste. Et elle est divorcée. Donc voilà. Bon, enfin, elle a été mariée. C'est une attaque un peu bizarre. Et elle répond en disant vieux con, qui est pas une. Qui n'est pas une meilleure réponse. Je trouve que ça ne situe pas le débat de l'actualité. Sandrine Rousseau, le problème, c'est que elle représente quelque chose d'important pour moi. Elle représente l'écologie féminine. C'est pas une alliée. On dirait une taupe des adversaires qui l'ont envoyée pour discréditer la cause qu'elle défend. Voilà. Il faudrait pouvoir la neutraliser à un moment donné politiquement. Ça ne tire rien à ses convictions, cette femme. Hein. Elle croit, elle est sincère. Mais en l'impact qu'elle a sur l'opinion publique par rapport à l'écologie est absolument calamiteux. Et là, il faudrait qu'ils en discutent entre eux pour la neutraliser 2 minutes.
Mathilde.
Moi, je trouve ça assez triste qu'on en arrive à ce niveau-là de débat, alors qu'on a traité juste avant dans cette émission le sujet des violences conjugales, qui est un vrai sujet où on a tous dit autour de la table, hommes comme femmes, que ça n'allait pas assez vite, assez loin. Donc, je vais pas défendre l'un ou l'autre.
On est
dans la caricature des deux côtés, et je trouve ça dommage parce que, du coup, c'est les sujets qui sont portés qui en pâtissent, quoi.
Je suis d'accord.
Et je trouve qu'on mérite mieux que ça.
Je suis d'accord.
On va passer au million du jour, Thibault.
C'est le nombre d'entreprises créées en 2022, un record selon les chiffres dévoilés ce matin par l'INSEE. Dans le détail, 61% l'ont été par des auto-entrepreneurs, un chiffre en légère hausse par rapport à 2021. Plus 2,8% à l'inverse des entreprises individuelles, en baisse de 7 points. Baisse également dans le secteur du transport, elles avaient explosé pendant la pandémie, mais beaucoup n'ont pas survécu à la levée des restrictions.
Pierre-Edouard Ménon, bonne nouvelle ? Alors, les Français ont envie d'entreprendre.
Que des gens essayent de créer leur activité et puissent le faire, c'est en soi toujours une bonne nouvelle. Après, d'abord, effectivement, quand on dit 60% d'auto-entrepreneurs, enfin de micro-entrepreneurs d'ailleurs, oui. Parce que l'auto-entrepreneuriat n'existe plus, de micro-entrepreneurs dont la moitié auront un chiffre d'affaires égal ou à peine ou égal à zéro. Je veux dire, il faut faire quand même relatif, parce que quand on dit création d'entreprise, on a l'impression que ça crée immédiatement de l'activité économique. On sait que c'est pas le cas. On sait aussi que beaucoup, on en parlait, beaucoup de chômeurs qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Ils ont une idée, ils disent bah finalement, je vais essayer de transformer mon idée en activité économique, à tort ou à raison, mais ça, c'est loin de marcher tout le temps. Donc, il faut faire très attention avec ce chiffre. Sur le principe, en soi, oui, on va pas dire que c'est une mauvaise nouvelle qu'il y ait 1 million de créations d'entreprises. D'abord, cela dit, tout le monde commence quand même enfin à dire que la question des faillites se pose, et il y a eu aussi davantage de faillites que les années précédentes. Et je le répète derrière, si créer une entreprise, c'est juste un mec tout seul ou une nana toute seule qui est immatriculée dans une chambre consulaire, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et je crains quand même que ce soit beaucoup, beaucoup le cas, notamment quand on parle de ces 60% de micro-entreprises.
Hein. Alors, c'est une réponse à ces Français qui disent, moi, heureusement qu'il y a Pôle emploi, quand j'ai envie de me reposer, que j'ai plus envie de mon boulot m'emmerde, je vais me planquer à Pôle emploi quelques mois pour repartir du... Bon, tant que ça existe, pourquoi s'en priver ? Ça veut dire qu'il y a quand même encore de l'initiative, de l'envie de création, et que la valeur travail reste dans une partie de la population, quelque chose qui est porteur. Je dis pas que c'est l'idéal. Hein.
Les gens sont pas des feignants, mais les gens veulent travailler
ils
autrement.
Ils veulent travailler, mais voilà. Il y a des gens qui s'épanouissent, il y a des malades qui s'épanouissent dans le travail.
Il y a plein de gens qui combinent les deux. C'est ça que je comprends pas dans ton raisonnement, Perico, c'est que moi je connais un certain nombre de gens qui ont été au chômage et qui pendant leur temps de chômage montaient leur boîte en auto-entreprise ou en boîte classique.
Très bien.
Donc c'est aussi un moment où le chômage peut te permettre de te lancer. Oui. Voilà. Dans une entreprise et d'avoir une sécurité financière.
Et le refuge de montagne avec j'ai un petit peu mal, un peu je vais me mettre au refuge pour l'emploi. C'est peinard parce que les autres payent pendant ce temps-là et puis que.
Bah, quand même pas nous refuser une bonne tartiflette, non.
Mais en attendant, la réalité de la baisse des entreprises classiques, elle est grave parce que on voit aussi beaucoup de boulangers, beaucoup d'artisans qui mettent la clé sous la
porte. Faut bosser.